Donc je ne suis pas beaucoup les actualités en ce moment. Mais bon, dernièrement, il y avait, vous savez, le conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Et moi, en tant que bon chrétien évangélique, on a vu des actes d'antisémitisme qui revenaient en France, des tags sur les maisons où habitaient les Juifs, comme ça se faisait à l'époque sombre du XXe siècle. Et bon, ça puise ses racines assez profondément. On va en parler aujourd'hui, cet antisémitisme. En tant que chrétien évangélique, auparavant, il y a quelques années, bon, tout était simple pour moi, hein. Voilà, Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, et voilà, on aime les juifs, j'aimais les juifs, j'aime toujours les juifs, et il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, on a vu la France un petit qui se divisait en deux. Est-ce que tu es pour les juifs ou est-ce que tu es pour les Palestiniens? Et on nous presse comme ça, peut-être à vous presser de, ben, toi, alors qui tu soutiens là-dedans? Alors que répondre? Que répondre à cela? Ce qu'on appelait à l'époque le problème juif est toujours présent. Et il est là depuis des siècles. Dans le chapitre 9 et 11 de l'Épître aux Romains, Paul donne de bonnes pistes de réponse pour pouvoir trouver les paroles ou même l'occasion de donner un témoignage si on nous pose cette question, pour qui tu es? La question du jour que va traiter Paul dans le Romains chapitre 11, c'est est-ce que Dieu a rejeté Israël? Est-ce que Dieu a rejeté Israël? On pourrait le dire autrement, est-ce que Dieu est pour ou contre Israël? Avant de lire le texte et de lire la réponse de Paul, je vais faire un petit rappel sur tout ce qu'il a dit auparavant dans le chapitre 9 et 10. La question de fond, c'est la suivante, pourquoi le peuple juif, le peuple choisi, pourquoi il n'a pas reconnu en Jésus-Christ son Messie? Pourquoi le peuple juif ne s'est pas converti? C'est quand même une question qui est importante par rapport à la foi dans la parole de Dieu. Alors, plusieurs questions qu'on a vues, je vais essayer de résumer ça, je vais, excusez-moi de ne pas le faire l'exprimer comme Paul l'exprime tout à fait. Est-ce que c'était un échec de Dieu? Paul répond non. Dieu est souverain pour aimer et pour appeler au salut qui il veut. Est-ce que Dieu est injuste en ne sauvant pas tous les Juifs? Non, Dieu est juste. Ce sont les hommes qui sont pécheurs et la miséricorde de Dieu est un cadeau. Si Dieu fait ce qu'il veut, pourquoi fait-il des reproches à son peuple? Une question qui est pointue. Et Paul répond, en quelque sorte, ce n'est pas une question que l'on peut poser, car les hommes sont comme des vases et Dieu est comme un potier. Il a prédestiné certains à recevoir sa miséricorde, mais les rebelles seront hélas les réceptacles de sa colère. Pourquoi les Juifs n'ont pas trouvé la justice de Dieu alors que certains païens l'ont trouvée? Les Juifs l'ont sincèrement cherché par la loi, leurs œuvres ou leur propre justice, alors que la seule façon de devenir juste, pour les Juifs comme pour nous, pour les non-Juifs, est de croire dans son cœur et de confesser de sa bouche le nom de Jésus-Christ mort et ressuscité. Et si en fait, les Juifs n'étaient pas au courant de l'Évangile. Grâce à l'évangélisation, c'est des passages qu'on a vus la dernière fois, grâce à l'évangélisation, ils ont entendu le message de l'Évangile. Mais est-ce qu'ils n'avaient, peut-être qu'ils ne l'ont pas compris? Et Paul de dire que depuis Moïse, les prophètes ont annoncé à l'avance, ont préannoncé cet évangile. Et donc maintenant, aujourd'hui, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? On va lire le chapitre 10, versets 1 à 10. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas, loin de là. Chapitre 11, verset 1, excusez-moi. En effet, Paul écrit, « Je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël ?« Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Mais quelle est la réponse que Dieu lui donne ?« Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. » De même, dans le temps présent aussi, il y en reste, conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est une par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Verset 7. Qu'en est-il donc ? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu. Et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui. David aussi dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, fais-leur courber constamment le dos. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? La réponse de Paul est catégorique. Hein. Non, Dieu n'a pas rejeté le peuple juif. Et il donne trois arguments. Lui-même, Paul, est la preuve que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il est un juif authentique, hein, la tribu de Benjamin. Jésus est juif, tous les apôtres et les premiers chrétiens étaient des juifs. Et nous vivons depuis à peu près deux siècles un mouvement qui s'est formé parmi les juifs qui se sont convertis à Jésus, qu'on appelle les juifs messianiques, des juifs qui revendiquent leur culture, qui conservent certains rites juifs, et donc il serait 350 000 dans le monde. C'est bien la preuve que Paul, que Dieu, comme dit Paul, n'a pas rejeté son peuple. Dieu aussi appelle des juifs aujourd'hui à la conversion à Jésus. Il les élit, il les prédestine à l'avance. Mais pour autant, Dieu ne cherche pas à le crier sur les toits, à publier des listes. Et on a une belle illustration de cela avec l'histoire du prophète Élie, qui lui, il se croyait le dernier des Mohicans. Élie a vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ, quelques générations après la scission qu'il y a eu dans le royaume de David puis de Salomon, qui était uni. Donc Salomon étant tombé dans l'idolâtrie, Dieu a jugé, prononcé une sentence, et donc le royaume lui serait enlevé, sauf deux tribus, tribu de Juda et de Benjamin, donc au sud, et les autres 10 tribus au nord seront sous la direction de Jéroboam, et au sud, au fils de David, Roboam, à cause de David. Et Akab, donc le roi de Syrie de l'époque, donc qui était dans le royaume du nord, il s'était allié, il a fait une alliance avec les Phéniciens, avec Sidon et Tyr, par mariage. Il avait épousé une princesse qui s'appelait Jézabel de Sidon. Et donc, certes, cela a mené une prospérité, des relations économiques, un certain développement. Pour le royaume du Nord, pour Samarie, mais ça l'a amené aussi Jézabel, qui avec elle a imposé, a massivement fait la promotion du culte de Baal. Le culte de Baal, c'était le dieu de la fertilité. Et donc les Israélites voyaient, regardez les Phéniciens, regardez comme ils sont prospères. Eux, ils adorent Baal. Et nous, pauvres Israélites, nous avons l'Éternel. Mais le vrai Dieu, il y avait comme une concurrence entre les dieux quant à savoir qui est-ce qui bénissait. Et il donc fait un défi, il lance un défi, vous connaissez bien cette histoire, il lance un défi au prophète de Baal, qui est Dieu, celui qui répondra quand on l'invoque. Et donc c'est effectivement l'Éternel qui répond à la prière de Élie et devant tous les 200 ou 400 prophètes de Baal. Et donc Baal les prophètes sont mis à mort à ce moment-là. Et donc Élie n'est pas du tout soutenu. Il se retrouve seul face à Jézabel qui le poursuit et il fuit et là il se croit seul. Et c'est là donc qu'il y a cet échange de Élie avec son Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi seul, je suis resté, ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donna? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Élie ne les connaissait pas, ne les voyait pas. Ces personnes qui étaient fidèles, ils ne savaient pas qu'ils étaient là. Et il était complètement découragé. Il y a toujours eu au cours du temps des personnes, des juifs qui se sont convertis et puis qui sont rentrés dans l'église, et ça se voit pas forcément, hein, on ne sait pas, des listes qui sont publiées dans les journaux, mais ça existe encore aujourd'hui, hein. Moi je ne connais pas beaucoup, j'en connais deux. Bon, un qui est assez connu dans le milieu évangélique, c'est Didier Silberstein, qui est à Aix-la-Chapelle, qui est pasteur, et qui est juif, et qui est comme nous, il n'y a pas de différence, et il est intégré dans l'église, et on ne voit pas de différence. Hein, il ne marque pas, comme quoi, il est juif, et il va y en avoir énormément. Et on ne les connaît pas tous, et on ne sait pas toutes les personnes qui se sont converties et qui viennent du judaïsme encore aujourd'hui. Dieu n'a pas rejeté son peuple, loin de là. L'immense majorité des juifs sont spirituellement sourds et aveugles, poursuit l'apôtre. Qu'en est-il donc? Ce qui, de nouveau, il répète et il explique pourquoi cette situation. Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à maintenant. Et donc, il y a un jugement de Dieu qui est annoncé. En quelque sorte, comme à un moment donné, ils n'ont pas voulu de Jésus-Christ, ils n'ont pas voulu reconnaître le Messie, et donc Dieu les a empêchés en quelque sorte de se convertir, et malgré les évidences, ils ne vont pas comprendre, malgré les évidences, ils ne vont pas voir, et pour nous c'est difficile parfois mais pourquoi les Juifs ne reconnaissent pas Jésus, ça semble pour nous tellement évident qu'à travers toute la Bible, on parle de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est qui bloque là? Le blocage, l'Ancien Testament en parle, hein, persister dans une faute, ça conduit à l'endurcissement. C'est un principe qu'on retrouve. J'ai noté quelques passages, Ésaïe 6, chapitre 9, 29, chapitre 10, 44, verset 10, 29, verset 10, chapitre 44, verset 18. Vous trouverez ça également en Proverbe, chapitre 1, ou en Exode, chapitre 9, avec le cas de Pharaon, si on persiste dans une mauvaise voie, ah ben, Dieu peut très bien endurcir et nous empêcher de sortir du travers dans lequel on s'est nous-mêmes placés. Romains chapitre 2, versets 10 à 29, donc tout à fait au début de l'épître, Paul parle de la situation des Juifs au 1er siècle et du fait qu'ils connaissent, mais ils n'appliquent pas. En suivant, il y a les imprécations de David. Donc les derniers versets, 9 et 10, sont extraits du psaume 69, qui est un psaume messianique. Alors, on peut lire juste un passage, il est assez long. Qui est très connu. Je vais lire à partir du verset 19. Donc, David prie, approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et toi, fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes. Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Donc on voit dans ce passage que les imprécations sont dans un contexte de persécution. Et je pense que quand il écrit ce texte, quand il écrit, il cite Paul cite que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle, un moyen de punition. Il a en arrière-plan la persécution que subissent les Juifs qui se convertissent de la part de leurs compatriotes au moment où il écrit. Et ça s'inscrit donc dans un contexte d'être en position d'être persécuté, mais pas en position de force, en position d'exécuter soi-même les jugements de Dieu. Non, ici, il demande, et David fait toujours ça, il demande à Dieu d'intervenir, il n'intervient pas lui-même. Il laisse cela à Dieu. Et il n'est donc pas question de prendre la place de David pour exécuter soi-même les jugements. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut bien saisir. Là, dans tout le Nouveau Testament, on est dans un contexte où l'Église, en général, l'Église, dans bien des endroits, et les Juifs en particulier, qui se convertissent, sont persécutés par leurs semblables. Donc cela introduit le point suivant que je voudrais développer. Dieu n'a pas rejeté son peuple, mais est-ce que les chrétiens, eux, n'ont pas rejeté le peuple juif? Alors, l'histoire nous enseigne, hélas, que les chrétiens ont rejeté les juifs. Et donc, Je l'ai dit, tout le Nouveau Testament a été rédigé dans un contexte où l'Église était persécutée par les Juifs. C'est avec ce contexte-là en mémoire que l'on doit lire les évangiles de Jean, que l'on doit lire l'Apocalypse de Jean. On est dans un contexte où les Juifs qui se sont convertis sont persécutés par les autres. Également, il y avait des cas où les Juifs qui étaient en place dans les synagogues dénonçaient les chrétiens comme étant au bénéfice de la liberté de culte qu'ils avaient, eux, en tant que Juifs. Et donc, ils les dénonçaient comme n'étant pas Juifs et donc devant adopter et devant pratiquer le culte impérial. L'exemption n'était pas pour les chrétiens, elle n'était que pour les Juifs qui se disaient authentiques. L'Église, il y a trois dates, trois tournants dans l'histoire des malheurs qu'ont vécu les Juifs après, dans les premiers et deuxièmes millénaires. Donc, la première date pour eux qui a un virage, c'est au IVe siècle avec l'avènement de Constantin. À ce moment-là, les chrétiens, vous le savez, ont eu accès aux sphères du pouvoir. Et là, de persécuter, ils vont bien souvent devenir, hélas, des persécuteurs. Alors, notre frère Daniel Luc Henrist, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là et a beaucoup fait de recherches. Et donc, bien avant lui, les Juifs, bien sûr, ont gardé le souvenir de toutes les malheurs qu'ils ont subis dans le temps. Et je voudrais vous lire, il y a des pages entières, je voulais vous dire juste quelques extraits de ce qui s'est passé pour eux. Donc en 315, il y a publication de l'édit de Milan qui étend la tolérance religieuse aux chrétiens, mais eux, les Juifs, perdent beaucoup de droits à cause de cet édit. Ils ne sont plus autorisés à vivre à Jérusalem ni à faire de prosélytisme. En 337, le même empereur Constantin promulgue une loi qui punit de mort le mariage d'un juif avec une chrétienne. 339, la conversion au judaïsme devient un crime. 380, je passe beaucoup de... L'évêque de Milan est responsable de l'incendie d'une synagogue. Il en parle comme étant un acte qui plaît à Dieu. L'évêque d'Alexandrie, Saint-Cyrille, chasse les Juifs de cette ville égyptienne. Même le théologien Augustin écrit « La véritable image de l'hébreu est Judas Iscariote qui vend le Seigneur pour de l'argent. Le Juif ne peut jamais comprendre les Écritures et sera pour toujours coupable de la mort de Jésus. » C'est la principale accusation des chrétiens contre les Juifs, c'est voilà le déicide. Ils ont tué Dieu. Et ça va, hélas, avoir cette idée va avoir la vie dure, comme quoi ce seraient les Juifs qui seraient responsables de la mort de Jésus, alors que l'Écriture enseigne que c'est et l'introduction de l'Épître aux Romains, l'humanité entière est coupable devant Dieu. Et donc l'humanité entière est responsable. Elle avait besoin du sacrifice d'expiation. Donc Jérôme, celui qui a traduit la Vulgate, hein, voilà ce qu'il écrit à propos d'une synagogue. Si vous l'appelez bordel, bouge d'iniquité, refuge du diable, forteresse de Satan, lieu de dépravation de l'âme, abîme pour tout désastre concevable ou ce que vous voudrez, vous direz moins que ce qu'elle mérite. Justinien, l'empereur Justinien, 527, de 527 à 564, donc un petit peu plus tard, promulgue le code qui porte son nom. Il est interdit aux juifs de construire des synagogues, de lire la Bible en hébreu, de se réunir en public, de célébrer la Pâque avant Pâques. Donc il y avait eu une séparation au moment du concile de Constantinople, au niveau de séparer les chrétiens et les juifs et pas la même date. Et donc là, interdit donc de témoigner contre des chrétiens au tribunal. En 613, une grave persécution éclate en Espagne. Il est donné aux juifs le choix entre quitter l'Espagne ou se convertir au christianisme. Les enfants juifs de plus de 6 ans sont enlevés à leurs parents pour recevoir une éducation chrétienne. C'est ce qui va arriver aux Huguenots quelques siècles après. Le canon 2 du concile de Kinixès déclare que personne appartenant à la prêtrise ni aucun laïc ne mange du pain sans levain des juifs, ni ait des relations familières avec eux, ni fasse appel à eux en cas de maladie, ni reçoive de médicaments de leur part, ni se baigne avec eux, mais quiconque entreprend de le faire, s'il est clair qu'il soit déchu, s'il est laïc, qu'il soit exclu. Les juifs pratiquaient la médecine. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, c'était interdit pour eux, parce que c'était Dieu qui guérissait. Et donc, tout ce qui venait des hommes n'était pas clair, n'était pas. Ça pouvait venir quelque part de Satan, et donc pas de guérison. Et les juifs donc, faisaient ce métier, parce que pour eux, c'était pas un problème. Dieu pouvait guérir à travers leurs soins et la médecine. Le pape, donc en 1078, le pape Grégoire décrète que les juifs ne peuvent pas exercer de fonction officielle ni être supérieurs aux chrétiens. Donc toute cette période jusqu'à l'an 1000, de l'an 400 jusqu'à l'an 1000, une discrimination. Les juifs sont discriminés. Mais avec la première croisade, ça va changer. Les croisés, vous savez, veulent aller délivrer le Jérusalem des Sarrasins qui étaient venus là, de l'islam qui était emparé de Jérusalem. Et donc, dans leur pensée, pourquoi on va faire un long voyage comme ça pour aller combattre les hérétiques et on a les juifs là qui sont chez nous et on ne ferait rien. Et donc en passant, cette croisade pille systématiquement tous les... ils pillent lorsqu'ils ont besoin un chemin de vivre, lorsqu'ils ont besoin, ils se servent en fait chez les juifs. Et ils sont les maîtres devant le dilemme d'embrasser la croix ou alors mourir. Et donc ils le pillent, ils le massacrent. Et ils volent. Et donc c'est quelque chose qui est affreux, hein. Qui est une étape de plus, hein. Après les avoir discriminés, ils sont exterminés carrément. Et comment on fait pour justifier ça, pour justifier de tels actes? Bien sûr, il faut les diaboliser, hein. Il faut nous excuser, ce sont des personnes qui sont des suppôts de Satan. Et donc, il va se développer en suivant toute une sorte de voilà. On va les représenter avec des chapeaux, des chapeaux avec des cornes. Hein. On les représente avec le nez crochu. À différents endroits, on les oblige à porter la ruelle là, un disque. Une pièce de tissu jaune qui est la couleur du diable pour les discriminer. Ils vont être accusés de pratiquer des sacrifices d'enfants pour fabriquer le pain azim. Il y a différentes choses comme ça. Et au final, les siècles passants, ils vont être chassés de presque tous les royaumes d'Europe. Et il faudra arriver au 19e siècle pour qu'il y ait une délivrance pour eux. Alors comment ont-ils réussi à survivre d'ici là? C'était des gens qui étaient cultivés, qui étaient lettrés, qui faisaient des métiers de ce qu'on appelle maintenant banquier, parce que c'était interdit pour les chrétiens, ne devaient pas faire des taux à usure, ils ne devaient pas prêter de l'argent avec intérêt. Donc eux faisaient ce travail et ils étaient, ma foi, très utiles aux princes et aux rois. Ils étaient utiles aussi quand on avait besoin de boucs émissaires. En tout cas, à partir du 19e siècle, c'est le siècle des Lumières, et là, le rationalisme arrive, hein, on explique le monde par la raison plutôt que par la religion. Et donc, les Juifs sont reconnus, la première fois, ça se passe en France, avec la Révolution française, in extremis, parce que même là, il y avait des discussions de ne pas leur accorder le statut de Français comme les autres, mais finalement ils ont les mêmes droits que les autres Français. Quelques temps après, c'est la révolution bolchevique qui va libérer les Juifs de l'Empire russe qui subissaient ce qu'on appelait les pogroms, c'est-à-dire des massacres de temps à autre, voilà. On allait se venger sur eux. Ils vont sortir de cette condition-là, mais hélas, l'anti-judaïsme va devenir de l'antisémitisme, ça va se séculariser en quelque sorte, et la discrimination et le fait de les prendre pour des boucs émissaires va continuer, hein, jusqu'à la Shoah. C'est une histoire contemporaine qu'on connaît mieux. Un parcours semé de sang et de larmes pour ce peuple. Alors, c'est ce qui les a vraiment poussés à avoir un pays, un État où ils puissent être en sécurité. Alors, bien sûr, quand on pense à ça, on pense à, mais ce sont les catholiques qui ont fait ça. Mais l'Église réformée n'est pas en reste le plus célèbre réformateur qui soit. En même temps, à l'époque, on appelait ça de l'anti-judaïsme et pas de l'antisémitisme. C'était l'idée d'être contre la religion juive, plus que contre la personne, c'était contre la religion. Donc il écrit ceci à la fin de sa vie, en 1543, il avait, quand il commence son travail public, il pense que les juifs vont se convertir, il pense qu'il va gagner les juifs à la réforme. Mais bon, il a oublié sans doute tout ce qui s'était passé avant, et ce que les Juifs avaient souffert, et ça ne se produit pas du tout. Et lui, doit être contrarié par cela, et il devient aigre à leur égard, hein, à la fin de leur vie. Il écrit des choses assez terribles, hein, à la fin de sa vie, en 1543. Voilà ce qu'il recommande dans un ouvrage, quand il écrit au prince. Expulsez-les pour toujours de ce pays, car nous l'avons entendu, la colère de Dieu à leur égard est si intense que la douce miséricorde ne tendra qu'à les rendre de plus en plus mauvais, tandis qu'une miséricorde sévère ne les réformera que peu. C'est pourquoi, dans tous les cas, hors d'ici. Que ferons-nous donc, nous chrétiens, de cette race damnée, rejetée que sont les Juifs? Premièrement, il faut mettre le feu à leur synagogue, ou église. Deuxièmement, leurs maisons doivent être démolies, détruites de la même façon. Ils doivent être mis sous un même toit ou dans une écurie, comme des gitans. Troisièmement, ils doivent être privés de leurs livres de prière, de leur Talmud, où sont enseignés idolâtrie, mensonges, malédictions et blasphèmes. Quatrièmement, il faut interdire à leurs rabbins sous peine de mort de continuer à enseigner. Cinquièmement, il faut complètement interdire aux Juifs d'avoir des passeports, les droits de voyager. Sixièmement, il faut les empêcher d'exercer l'usure. Tout leur argent, tout leur objet de valeur doivent leur être confisqués et mis à lieu sûr. Septièmement, qu'on donne aux Juifs et juive jeune et vigoureux le fléau, lâche la houe, la pelle, la quenouille, le fuseau, et qu'ils gagnent leur pain à la sueur de leur front, comme cela est prescrit aux enfants d'Adam. En résumé, chers princes et nobles, qui avez des juifs dans vos domaines, si ce conseil que je vous donne ne vous convient pas, trouvez-en un meilleur, afin que vous-même et nous tous soyons délivrés de ce fardeau insupportable et diabolique, les juifs. Alors, il y a du passif, comme on dit. Vous voyez en quoi on est concerné, nous, maintenant, qui sommes au 21e siècle, devant ce conflit. Je crois qu'il faut, il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut avoir beaucoup d'humilité et ne pas nous presser de juger nos frères qui, dans le passé, ont été opposés, ont fait du tort aux Juifs. Eux, ils ne connaissaient pas la Shoah. Eux, ils n'avaient pas vu de leurs yeux Dieu redonner un pays à son peuple. Alors nous, bien sûr, c'est tellement évident pour nous aujourd'hui, mais ça n'était pas à l'époque. Qu'aurions-nous fait ou pensé si nous avions été à leur place? C'était l'ambiance qui était complètement comme ça, hein. Les écrits de Luther, ça voilà, c'était l'ambiance. Et il faut nous souvenir également que c'est le communisme qui a sauvé les juifs qui a délivré de la servitude les juifs de l'empire de Russie. C'est chez nous, c'est le siècle des Lumières, hein, on sait ce que cela a produit, comme la pensée des Lumières, ça a bouché sur l'athéisme, tout ça. Et voilà, c'est ça qui a délivré, qui a sorti de leur condition le peuple juif. Donc il nous faut, je crois, beaucoup d'humilité. Alors, encore aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de juifs, je n'ai pas beaucoup rencontré, mais il paraît quelque chose de dans le fond, c'est qu'ils savent leur histoire. Ils savent, nous on ne la connaît pas, on ne veut pas connaître, on ne veut pas voir. Là, c'est un petit peu comme l'histoire de France avec les Huguenots, hein. Louis XIV, c'est le roi soleil, et on oublie les persécutions qui ont été faites aux Huguenots, qui sont du même ordre que ceux qu'ont dû subir les juifs pendant des siècles. Donc, il a des très bonnes raisons de se méfier de nous, de se méfier de tout ce qu'on pourra dire. Donc, après l'humilité, c'est la demande de pardon. Demander pardon pour des choses que l'on n'a pas fait, ça paraît ne pas avoir de sens. C'est ce qu'a fait Daniel quand au chapitre 9 de son livre, quand il plaide à Dieu le pardon pour les fautes de son peuple, et lui il n'était absolument pour rien de tout cela. Cela, une autre application de mener le bon combat. Les êtres humains ne sont pas nos ennemis, on le sait. Ce verset d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Aujourd'hui, on peut combattre l'islam, enfin, combattre l'arabe, c'est autre chose. Il y a des idées à défendre, il y a des idées à promouvoir, mais ça reste des idées. ça se fait pas avec, avec des armes ou avec des choses méchantes. On ne doit jamais perdre de vue l'exemple de Jésus. Hein. Il y a ce risque de, on dit, de basculer dans le côté obscur de la force et de devenir l'instrument de ces ténèbres, justement. Alors, ce sont des choses qui sont sérieuses. Il faut être en garde. Hein. Attention lorsque nous sommes en position de force. Attention lorsque, voilà, c'est nous qui avons le pouvoir ou sinon qui sommes en position de domination. Ça arrive. Attention que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. En Corinthiens 10, 12, Jésus-Christ était le plus fort, mais il n'a jamais maltraité personne. Au contraire, il n'éteignait pas le lumignon qui fume. Alors, au-delà du problème du judaïsme et de la relation avec le peuple juif, au-delà de cela, il y a un danger de là, chaque fois que l'on se sent fort, chaque fois que l'on se sent en position de force, c'est là où on risque de faire du tort. Souvenons-nous que ces imprécations qui sont citées ici, ces imprécations de David, il est en position de victime. Chaque fois qu'il fait ça, il est en position de victime. C'est lui qui est persécuté, c'est lui qui est outragé, c'est lui qui s'en remet à Dieu et qui demande justice à Dieu. J'ai quelques photos pour terminer, pour illustrer. Si vous avez envie de connaître, faire un petit survol de cette histoire du peuple juif depuis les temps du Seigneur jusqu'à présent. Je regarde pas souvent Arte et je me méfie beaucoup de cette chaîne, mais elle a produit quatre émissions qui sont assez bien faites, je trouve, qui expliquent un petit peu, hein, au-delà du problème du judaïsme, il y a toute cette recherche de bouc émissaire. Et lorsque les juifs sont discriminés, c'est une période qui est très dangereuse. Donc là, on voit cette gravure ici avec le chapeau pointu et avec le nez crochu. Les caricatures des juifs qui ont été très très nombreuses. Hein. En voilà une autre. Donc il prêtait de l'argent parce que c'était interdit aux chrétiens de le faire, de prêter à taux d'usure, et donc c'était eux qui le faisaient, et donc ils ont eu cette réputation depuis d'aimer l'argent, de voilà, chercher à s'enrichir, et ça, c'est des choses qui sont très profondément ancrées, on le voit avec son nez pointu et ses registres. Hein. Ça, c'est l'exil des Juifs d'Espagne, je crois. Quand ils ont été refoulés, chaque fois qu'ils étaient refoulés, ils avaient, voilà, hein, vous prenez vos bagages, vous partez. Et ils devaient tout abandonner et tout quitter. Et ils étaient dans le plus grand dénuement. C'était vraiment, il fallait trouver exil ailleurs. C'était des centaines de milliers de personnes chaque fois. On parle de problèmes de déplacés aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui existait dans le passé. Souvenons-nous que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Seigneur, merci pour de nous garder de tout esprit de, de supériorité, de tout esprit de jugement envers quiconque, de nous garder comme toi, d'un témoin de la lumière, et de nous à comprendre les souffrances des personnes qui nous entourent, particulièrement ceux qui viennent d'autres religions, d'autres cultures. Aide-nous à marcher, oui, dans l'humilité, dans l'amour, à développer les vertus qui viennent de toi, notre Dieu, et ne pas sombrer dans la méchanceté. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.